Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter.
Une émission réalisée par Olivier Bétard, assisté de Karen Dehaye, avec à la technique aujourd'hui Stéphane Poitevin et Charles Pellabon.
Au sommaire cette semaine, crypto-partie entre amis et journée du matrimoine. Oui, matrimoine avec un M.
En fait, il y a tout un paquet de femmes là, dont on va coller les noms, qui devraient être connues à notre avis. Vous connaissez Marie Marvin ? Parce qu'elles ont fait des grandes choses.
Toutes les données que vous envoyez sur Internet, il se passe quoi avec ? Quel contrôle vous avez dessus ?
En fait, c'est hallucinant tout ce qu'on peut trouver, si on sait chercher, si on cherche bien, si on se contente pas de la première page de Google.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits ?
Comme un bruit qui court quand ce samedi 19 septembre, vous êtes nombreux, chers auditeurs, à sillonner les rues des villes partout en France, à la découverte de l'héritage culturel et architectural qui nous entoure. Et nous sommes bien placés pour le savoir, puisqu'à quelques mètres de notre studio, les visiteurs affluent autour de la Maison Ronde pour découvrir les coulisses de ce lieu emblématique du patrimoine. Le patrimoine, à propos, c'est l'héritage du père. À en croire l'étymologie, les mères ne nous auraient rien légué. C'est justement pour battre en brèche cette idée reçue qu'Antoine Chao, lui, a fait un pas de côté, à la rencontre de celles qui organisent les journées du matrimoine. Et si d'aventure, au cours de vos pérégrinations, vous croisez quelques mères ou élus en colère, c'est que ce n'est pas moins de 11 milliards d'euros que l'État a décidé de sabrer aux collectivités. Encore quelques années à ce régime d'austérité et c'est bientôt la piscine et la médiathèque que vous irez visiter comme un morceau du patrimoine, vestige d'une époque où l'on cultivait les services publics de proximité. Mais avant de partir sur les traces de notre héritage au féminin, une petite mise en garde. Si vous vous égarez et que vous cherchez sur Google Maps votre trajet, sachez que vous êtes surveillé. Partout où vous irez, vous serez repéré. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour apprendre à protéger vos données, Guy Vangtin nous emmène tout de suite dans une crypto-partie en compagnie de hackers qui pourront vous aider. Comme un bruit qui court jusqu'à 17h, c'est sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vangtin. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Le projet de loi sur le renseignement, adopté tout à l'heure par l'Assemblée.
On a toutes nos données personnelles, toute notre vie de ces 5 dernières années aux mains d'entreprises, dont le but est de faire du pognon en faisant de l'analyse statistique pour nous faire du placement publicitaire et de l'analyse comportementale.
Une loi controversée car axée sur la surveillance des citoyens comme moyen de prévention du terrorisme, une loi donc au cœur des libertés individuelles.
Tout ce qu'on fait, ça laisse des traces. Et ces traces-là, de plus en plus, elles vont être exploitées par Google, par Facebook, par des services de renseignement ou par des gens comme moi.
Il est toujours étonnant de voir un certain nombre de critiques venir contester non pas la légitimité de ce texte, mais son caractère éventuellement liberticide.
Je pourrais identifier cette touche.
Ne vous inquiétez pas. Malgré les cassandres qui crient au loup et autres crypto-parano, ne vous inquiétez pas. Notre premier ministre nous l'a fait dire et répéter. Les lois sur le terrorisme et sur le renseignement récemment votées ne font pas de nos sociétés des antichambres de Big Brother. Même si beaucoup d'associations et de défenseurs de nos libertés en ligne nous alertent depuis des mois sur notre glissement accéléré vers une société de surveillance, seuls les méchants terroristes sont concernés. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'encore une nouvelle loi est en préparation sur la surveillance des données à l'étranger par nos services d'espionnage. Comme si il fallait admettre une bonne fois pour toutes la porosité de nos sociétés et de nos intimités à la surveillance en ligne, que ça soit au nom de la sécurité ou du profit. Heureusement, des personnes comme Hawking, activiste avec un H comme hacker, organisent des crypto-parties ou chiffres au fait pour initier les citoyens à la maîtrise de leurs données à l'occasion d'ateliers. Un autre interlocuteur, c'est Jean-Marc Manac, que vous avez déjà vu dans cette émission et qui, lui, est grand reporter sur Internet. Et il nous apprend que si les surveillants nous surveillent, il est aussi possible de surveiller les surveillants. Exemple, avec l'affaire de la société Amesis, prise en flagrant délit de vente de logiciels de surveillance à la Libye de Kadhafi. Donc, vous êtes prévenus, comme un bruit qui court, partons surveiller les surveillants.
Identifier cette touche que je suis en train de taper.
Voilà, je laisse la parole à l'équipe de la Crypto Party qui va vous enseigner quelques rudiments pour surfer sur Internet. Je laisse la parole à Hawking. Bonjour à tous. Donc, les quatre animateurs, il y a Erdir ici, Hawking, c'est moi,
Peregrine à ma gauche et Axe là-bas avec les lunettes. Et on va essayer de vous guider pas à pas pour une meilleure maîtrise de vos données en ligne.
Alors, on va mettre des emails, tout ce qui est là-bas. Tout ce qui est à côté, un téléphone portable là-bas au fond. Ouais, ici, on va mettre la messagerie instantanée et moi, je vais me mettre là pour le navigateur.
Et on va tous vous le dire, mais on va le dire déjà maintenant. Il n'y a pas de questions idiotes, donc n'hésitez vraiment pas. Si jamais à un moment, il y a un truc que vous ne comprenez pas, donc n'hésitez pas à demander, à réexpliquer des trucs, vraiment.
Je sais pas, on peut dire que je suis hawking, que je suis un hacker des internets, on peut dire que je traîne dans des hackerspace sur Paris, dans le loop, etc. Que j'organise des crypto-parties pour permettre aux gens justement de reprendre un peu le contrôle sur leur système de communication, de comprendre un peu comment marchent ces machines qui ont l'air parfois un peu magiques, que sont les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc. Que j'ai fait partie de Telecomics, qui était un collectif informel où on a beaucoup travaillé dans le cadre des printemps arabes. Donc voilà, je commence comme ça, je me retrouve là-bas, fin 2010, début 2011, au moment où en décembre, Mohamed Bouazizi va s'immoler. Le printemps arabe va quand commencer.
C'est l'étincelle en Tunisie.
Ouais, c'est l'étincelle en Tunisie, puis après en Égypte, en Syrie. Et c'est là-dedans en fait que j'ai commencé moi en 2010. Donc c'est assez récent, c'est là-dedans que j'ai commencé à me poser des questions sur, ok, la neutralité du net c'est bien, la liberté de circulation d'information c'est bien, mais c'est... il y a peut-être autre chose à faire que juste le dire sur son profil ou autre. Il y a peut-être des trucs un peu plus complexes à mettre en place, des choses à faire. Donc c'est de là que je me suis construit un tout début d'idée politique. Et après, ben, du coup, en discutant, en se disant, ben, ok, la technique est nécessairement politique parce que la technique change le monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas neutre. L'outil qu'est Internet n'est pas neutre dans le sens où ça change le monde, en fait. On entend parler de ce qui se passe en Syrie et la situation actuelle en Syrie escalée parce qu'on a pu entendre ce qui se passait là-bas, parce que Bachar Al-Assad n'a pas pu faire comme son père en 83 où il avait pu massacrer la population de Hama sans que personne n'en sache rien. Voilà. Parce que maintenant, on est capable de voir ce qui se passe dans le monde, en fait. Parce que tout le monde est connecté. Enfin, on essaie de connecter tout le monde. I put 100,000 pictures of my ass on the internet so the NSA can spy on it and try to keep an eye on it. Sir, we have a report that a man was typing in Arabic and we pulled it up and he said he was from Syria and he said there was gonna be a jihad in America. I put 100,000 pictures of my ass on the internet so the NSA could spy on it and try to keep an eye on it. I maybe call the FBI. Petit tour de table, qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur internet pour votre surf quotidien en fait?
Safari,
Mozilla. La grosse problématique qui se pose en fait, c'est toutes les données que vous envoyez sur internet, il se passe quoi avec? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui en fait quoi? Quel contrôle vous avez dessus? Quel droit de regard vous avez par rapport à ça? D'ailleurs, on parle plus de données privées, on parle de données personnelles. On parle de personal data et non pas de private data. En fait, notre activité en ligne, enfin le surf sur internet, mais pas que, les discussions en ligne, l'échange de mails, etc., est surveillé et analysé pas par des gouvernements mais par des entreprises qui font du placement publicitaire. Par les mêmes 5 intermédiaires, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, GAFAM. On a toutes nos données personnelles, toute notre vie de ces 5 dernières années aux mains d'entreprises dont le but est de faire du pognon en faisant de l'analyse statistique pour nous faire du placement publicitaire et de l'analyse comportementale. Ça marche super bien chez Amazon. Ah tiens, j'achète ça, ah puis c'est vrai que ça a l'air bien, ça claque, tu l'achètes. Et ça marche super bien. Et du coup, qu'est-ce que t'as comme contrôle là-dessus, toi? Bah rien.
Le sourire sur les colis, c'est nous. Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien. Nos plus belles réussites sont celles auxquelles vous ne pensez plus, mais dont vous ne pouvez plus vous passer. Amazon.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom?
Marc.
Marc, sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis facteur et bientôt moniteur auto-école.
Très bien. Et vous?
Mathilde.
Mathilde. Et vous, alors, vous avez appris des choses?
Oui, j'avais déjà quelques connaissances, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je suis analyste programmeuse, mais...
Ah bah ouais, c'est pour ça que vous connaissez un peu.
Voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'en général, même quand on est informaticien, on n'est pas suffisamment informé. La population en général n'est pas suffisamment informée sur ce qu'on fait de leurs données. Et du coup, on ne se protège pas assez, je trouve.
Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous vous intéressiez à ces questions-là?
Ben, en fait, c'est tout ce qui est lié à... dernières lois, etc.
Sur le renseignement, le projet de loi sur le terrorisme.
Exactement. Donc ça m'inquiète un peu de savoir comment ça se passe, nous fait un peu être acteur de certaines choses. Donc, voilà.
Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit.
Ah, les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Ces données que nous libérons gratuitement et volontairement à chaque instant. Le Big Data espère rentabiliser le monde. Un monde où ceux qui utilisent ces données décident de ce qui est bon ou mauvais.
Ok, toi tu participes avec d'autres à essayer de donner, peut-être pas des armes, mais au moins des outils à tout un chacun pour se réapproprier ou au moins pour pouvoir être conscient de tout ça. C'est ça les chiffres faits et les crypto-parties.
C'est un peu le but, c'est de la réappropriation en fait. Comprendre comment ça marche en fait, parce que il y a une différence entre sécurité et vie privée. La sécurité, c'est quelque chose d'extérieur qui enregistre tout sur moi et qui me protège de ça. La vie privée, c'est moi qui décide que ça, ça ne concerne que moi et pas les autres entités extérieures. Il y a une différence fondamentale entre les deux et on est en train d'abandonner l'un pour l'autre. On a consenti collectivement à abandonner le contrôle sur nos outils à des entreprises qui nous ont dit « mais nous, on sait ce qu'il y a de bien pour vous ». Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. se sont rendus extrêmement indispensables à nos vies parce qu'ils rendent des services. Parce qu'on n'a pas tous 17 heures à passer par jour à gérer nos données, etc. Le problème que ça pose avec Facebook, ou même Google, ou même Twitter, c'est qu'in fine, ils décident, eux, quelles sont les informations que tu dois voir. C'est-à-dire qu'on en arrive à, par de l'analyse statistique extrêmement précise, je veux dire, si tu fais un like sur cet épisode de Game of Thrones, tu es comme les personnes, comme les 1500 autres personnes qui ont liké ça, tu corresponds donc à cette classe-là. Et on peut faire des profils très très précis, je veux dire, une dizaine de likes sur Facebook, ça suffit en fait, pour commencer à te catégoriser de manière extrêmement précise. Je veux dire, les mécanismes qui sont mis en place par Facebook et Google pour placer correctement les publicités, c'est les mêmes mécanismes que celles qui sont mis en place par Hacking Team et Cosmos pour identifier les dissidents et les mauvaises personnes et vendre des systèmes à des régimes oppressifs qui permettent de cataloguer directement les bons opposants des mauvais opposants.
Donc que ce soit les services de renseignement ou les grandes multinationales et leurs services marketing, c'est la même démarche d'identification et de recueil de données à des fins qui nous échappent à chaque fois.
Oui, absolument. Enfin, je veux dire, on en est à maintenant, on a des librairies JavaScript qui permettent de traquer le mouvement de la souris sur la page. Là où est votre souris sur votre page web, ça indique à peu près là où vous êtes en train de regarder et de lire. Donc ça dit combien de temps vous passez à lire quoi.
Avant, on pouvait voir quelle page, combien de temps, mais maintenant, c'est quelle partie de la page.
Quelle partie de la page, quel texte, quelle image, comment on lit. Enfin, c'est des techniques qui sont utilisées en neuromarketing.
C'est là où on a l'impression de devenir vraiment des rats de laboratoire un peu.
Ben, on est des rats de laboratoire en fait. Ça devient un outil de contrôle social en fait. Parce que nous avons abandonné nos données privées, parce que nous avons collectivement dit. Il y a des entreprises qui sont plus aptes que nous à décider à quelles informations on doit accéder en fait.
Je sais pas ce qui se passe en Syrie, mais je sais qu'à ma soeur fait des biscuits. Merci, merci, merci Facebook. Ça fait 20 ans que j'ai pas vu mon nom Gilles, mais viens m'inviter à Farmville. Merci, merci, merci Facebook. Je me sens moins seul dans la vie parce qu'on est 30 000 à 1000 céleri. Merci, merci, merci Facebook. Je suis dans mon casier au secondaire, à star, tu likes mes commentaires. Merci, merci, merci Facebook. Mon ex me parle plus depuis 4 ans, puis là je viens de voir 4-3 enfants. Merci, merci, merci Facebook.
Les réseaux sociaux ont changé ma vie. José Boudreau m'a accepté comme ami. Avant je regardais les bulletins d'information, à ce temps je regarde des vidéos de chatons.
Merci, merci, merci Facebook.
Mot dièse, mot d'ordre, hashtag comme un bruit.
Sur France Inter.
Et il y a deux outils qui sont très intéressants, donc ils sont Privacy Badger. Donc Privacy, P-R-I-V-A-C-Y, Badger, B-A-D-G-E-R. Et qui va vous dire quand vous êtes sur un site. Combien il y a de logiciels qui vous traquent et qui vous suivent, ça fait quelque chose qui est super intéressant, qui est que ça travaille au niveau des cookies. Le cookie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de données en fait, qu'on donne au navigateur, que les sites fournissent au navigateur pour leur dire, ben voilà, tu es tel utilisateur, et quand vous retournez sur le site, souvent, il va garder votre login, mot de passe, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter 10 minutes après que vous ayez fermé votre fenêtre. La problématique qui se pose, c'est que le cookie, il reste. Ce qui fait que, par exemple, si Facebook vous donne un cookie, tous les sites Facebook peuvent accéder à ce cookie-là et le lire. Ce qui veut dire que vous avez fermé toutes vos pages Facebook, vous êtes déconnecté, mais comme vous avez toujours ce petit cookie dans votre navigateur, quand vous allez sur Le Monde pour lire tel article sur l'accueil des réfugiés, et le bouton là, comme il appartient à Facebook, il demande à votre navigateur, hey, il dit, est-ce que tu n'aurais pas le cookie Facebook? Votre navigateur dit, bah si, moi j'ai le cookie Facebook, je vous le donne. Donc je suis tel utilisateur avec telle numérotation, etc. C'est comme ça que Facebook sait que vous avez lu telle page, alors que vous êtes déconnecté de Facebook. Ce que fait Privacy Badger, c'est justement quand il vous a fermé la page de Facebook, il va détruire le cookie Facebook. Et donc du coup, Facebook n'est plus capable de dire que vous, tel utilisateur, avez lu tel article.
Facebook, Facebook, gotta check my Facebook.
Gotta take another look, nothing new. I am hooked, what to do? Hit refresh every day, there's no end. It's the Facebook way. It's the Facebook way.
Nos gouvernants veulent actuellement pouvoir vous identifier quels sont les bons citoyens et les mauvais citoyens. Il faut savoir que Google et Facebook sont capables de répondre à cette question-là. On a déjà moyen actuellement, par Facebook et Google, de cibler très précisément des populations et des gens et d'en faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis que c'est un outil, que Google et Facebook sont des outils de contrôle sociaux, c'est parce que c'est des outils qui permettent de mettre en place une discrimination extrêmement efficace. Voilà, t'as pas de moyen de te cacher contre ça. C'est des données qu'on appelle des métadonnées en fait. C'est des données qui vont décrire la donnée, les métadata, dont tout le monde parle partout sans trop savoir ce que c'est. En fait, une métadonnée, c'est une donnée qui va dire cette communication a lieu entre cette personne et Google, tel jour, à telle heure. La communication dure 45 secondes, le temps de charger la page, et ensuite, cette personne est allée sur tel site. Voilà. C'est des choses qui sont extrêmement identifiantes et extrêmement personnelles. C'est là qu'entre en jeu des logiciels comme Tor. Qui a entendu parler de Tor ici? Ah, pas mal. Tor, c'est un projet qui a été développé par l'EFF, qui est l'Electronic Frontier Foundation, une ONG américaine qui défend les libertés en fait, électroniques et numériques sur Internet. C'est un système qui va appliquer les principes de l'oignon à votre communication Internet. C'est-à-dire qu'au lieu que vous vous connectiez directement à Google, cette communication-là, on va l'enrober dans des couches d'oignon, dans trois couches de cryptographie en général. Ce qui veut dire que déjà, pour Google ou Facebook ou Twitter, c'est plus compliqué de vous localiser parce que les adresses changent régulièrement. Vous avez une donnée, vous êtes connecté en France et Google verra que vous vous connectez un jour de Pologne, un jour de Russie, un jour des États-Unis, un jour d'Inde, un jour d'Afrique du Sud, ce genre de choses-là. Ça veut dire aussi que vous cachez toutes vos métadonnées à l'intérieur du réseau Tor. Ce qui veut dire que votre fournisseur d'accès à Internet, et donc les forces de l'ordre du pays dans lequel vous résidez, savent juste que vous utilisez Tor et qu'il y a du trafic qui passe par Tor. C'est tout ce qu'ils peuvent dire de votre trafic Internet. Tout le reste, ils ne le voient pas en fait.
C'est un logiciel à télécharger.
Alors, c'est un logiciel qui se télécharge sur torproject.info, torproject.info.
Tor, the Onion Router. Sur l'Internet classique, toutes vos activités sont traçables. Le programme Tor fait transiter la connexion d'un serveur à un autre dans le monde entier, de manière aléatoire. Votre ordinateur est camouflé dans le réseau Tor. Impossible désormais de localiser votre connexion et donc de vous identifier.
Bonjour, je peux vous déranger un peu parce que vous avez l'air de poser plein de questions.
Christopher, étudiant en informatique. Will, professeur de PS.
Et qu'est-ce qui vous a amené ici alors à cette crypto party?
Ben, c'est-à-dire que des fois on est un peu surpris par le fait qu'on soit affiché. Et moi par exemple, donc j'étais en magasin, j'avais cherché sur internet via mon téléphone pour voir si c'était pas plus intéressant d'acheter le produit sur internet. C'était Darty, c'est, voilà. Et j'avais vu que c'était le même prix, donc je l'ai acheté. Et quand je suis arrivé chez moi et que j'ai voulu aller sur internet, j'ouvre ma page internet et je vois un onglet sur le côté qui me propose d'acheter la même sorbetière pour laquelle j'avais fait la recherche, quoi. Si ça n'avait pas plu, j'avais demandé à des amis qui s'y connaissent à internet, etc., qui m'ont conseillé plusieurs petites choses.
C'est exactement ce principe-là. Comment la publicité ciblée fonctionne? Ben, la publicité ciblée marche parce que vous avez
une... Ça passe de mon téléphone à ben,
parce que t'es connecté avec... Ça passe de ton profil à ton profil, en fait.
Oui.
T'es connecté avec Google sur ton téléphone. Tu vas aller voir sur une publicité. Cette publicité va voir que t'es connecté à Google. Et donc, Google va être capable de récupérer par le cookie Google ton numéro d'identifiant. Et quand t'es chez toi et que t'es aussi connecté à ton compte Google, ben Google fait « Hey, ça, c'est une publicité qui t'a plu, a priori, donc je vais te mettre plus de publicité de ce type. »
Mais qu'est-ce qui vous gêne, vous? C'est le fait qu'il y ait cette collection de données et d'informations sur tout un chacun, ou c'est l'usage qui en est fait?
C'est l'usage, parce qu'en soi, il y a beaucoup d'utilisations très pratiques pour tout le monde. Mais derrière, le principal objectif pour les grandes entreprises, c'est de faire de l'argent. Dans notre dos, et on ne le sait pas. Sur notre dos. Moi, j'aime bien ma vie privée et pas ma vie personnelle, c'est ça. Voilà, je crie pas sur les toits que je fais ci, que je fais ça, etc. Et je le dis qu'avec les personnes avec lesquelles j'ai envie de le partager.
Ça, c'est pour l'usage business. Et est-ce que les lois qui récemment sur la sécurité, sur le terrorisme, sur le renseignement, ça vous a inquiété ou vous vous êtes dit, bah non, moi, je suis pas terroriste, je suis pas concerné?
Dans l'absolu, oui, c'est ça. Je suis pas un terroriste, je fais rien d'illégal. Oui, effectivement, on n'a pas besoin de se protéger, mais j'ai pas envie de vivre dans la société de Big Brother. J'ai pas envie d'être surveillé, même si je n'ai rien à me reprocher. Le pire, c'est qu'on a signé pour. On a signé, on a accepté, on a cliqué, j'accepte.
C'est que justement, on a donné tout pouvoir à Facebook maintenant, donc maintenant Facebook contrôle tout, et dès qu'il change ses conditions d'utilisation, bah, tout le monde dit oui, je continue, j'utilise.
On est devenu esclave parce qu'on se connecte toute la journée avec Facebook.
Et à chaque fois, vous lui faites gagner de l'argent.
Et à chaque fois, on dit « j'étais là, j'étais là ». C'est flippant.
Bonne continuation alors.
Merci.
Bonne crypto-partie.
C'est ça, c'est ça. Bon empêchement
de surveiller en rond.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Hello, hello, we are the NSA, and it's too late for us to change our ways. Emails and texts, we listen to your phone, webcams, laptops, we're watching you at home. But terrorists are not what we pursue, the truth is that we're only watching you. We watch Americans masturbate all day, turn on your cameras and watch you jerk away. Executive order for Homeland, record Americans with their junk in hand.
Donc, le but de cette crypto-partie, c'est de vous dire que même si on est traqué, qu'on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir s'en protéger. J'entends beaucoup souvent des gens dire « je n'ai rien à cacher ». C'est pas vrai, on a tous quelque chose à cacher.
Je peux vous modifier la voix. Vous voulez une voix plutôt aiguë ou plutôt grave ?
Je crois que ma voix est trop aiguë comme ça. Donc
on va la baisser un peu, on va la pitcher. C'est les techniciens de Radio France qui vont pouvoir le faire. Un prénom.
Alors. Thomas.
Qu'est-ce que vous faites comme genre d'activité dans la vie, Thomas ?
Plein de choses différentes.
Et pourquoi vous êtes venu à cette chiffre fête ?
Pour acquérir des compétences techniques sur le sujet. Bon, les lois qui sont passées récemment sont quand même extrêmement inquiétantes. Donc, techniquement, reprendre le contrôle est quelque chose qui est extrêmement utile à simplement sauvegarder la démocratie. Quoi.
Donc, après Snowden, après les lois renseignement français, vous vous êtes dit, tiens, je vais venir passer une soirée ici pour apprendre à plus être à poil sur Internet.
Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Apprendre et puis éventuellement apprendre à apprendre. Parce que je sais que si je demande à ma grande sœur de m'envoyer sa clé publique, elle va même pas comprendre ce que je raconte. Et si j'essaie de la convaincre, elle va dire, mais t'es encore plus fou que je pensais.
T'es parano.
Exactement, exactement.
Marqué avec votre voix modifiée, on va croire que vous êtes parano. Ouais.
Ah, c'est possible, mais je veux dire, même les parano ont des ennemis.
Après cette toute petite bouffée de parano, vous allez peut-être vous dire à tort que ces activistes se prennent un peu pour des James Bond avec leur technique de chiffrement. Mais ces histoires de barbouzes et d'espionnage en ligne, elles existent, comme celle que Jean-Marc Manac, enquêteur envoyé spécial sur Internet, a levée avec l'affaire Amesis, ou comment des bras cassés de la surveillance se sont à leur tour fait piéger sur Internet. C'est ce qu'il raconte dans une BD aux éditions Futuristes, Grandes Oreilles et Bras Cassés, et c'est l'occasion d'aller le retrouver chez lui, c'est-à-dire jamais très loin du front des batailles numériques. Nous voilà dans l'antre. Voilà à quoi ça ressemble la base d'un travail d'un grand reporter du net, Jean-Marc Manac.
Ça c'est deux écrans, un gros ordinateur, des disques durs, plusieurs autres ordinateurs, plein de papiers, des archives.
Et un coffre-fort à l'ancienne.
Un coffre-fort de banque que j'ai découpé parce que c'était trop lourd.
C'est énorme. Ça c'est pas mal comme résumé pour toutes les questions de cryptographie, de surveillance et de sécurité des données.
J'ai aussi un broyeur.
Un broyeur papier.
Et ben ouais, il y a certaines choses, si jamais un jour je me fais cambrioler, je veux pas me faire voler certains objets. Donc coffre-fort et broyeur.
On en vient maintenant à cette polémique. La France a permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime.
Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. La société Amesis reconnaît avoir vendu un logiciel aux Libyens pour lutter contre le terrorisme. Au pouvoir, comme dans sa chute, le colonel Kadhafi aura pu compter sur la technologie Made in France.
Voilà, c'est verrouillé. Ah voilà l'enquête dessinée.
Ouais.
C'est la parce qu'il y a eu la version livre avant.
Et ensuite, quand la revue dessinée s'est créée, ils sont venus me demander est-ce que j'avais une idée de reportage. Et je leur ai raconté comment j'avais enquêté sur Amesis. Et en fait, en racontant l'enquête, je me suis aperçu que ça les faisait marrer. Parce qu'il y a des trucs rigolos dans cette enquête. Et c'est là où ils m'ont dit, ouais, bon, en fait, il faut que tu racontes cette enquête-là, mais en montrant comment toi, tu as découvert un certain nombre d'informations sur cette boîte française qui avait donc conçu un système de surveillance massive de l'Internet à la demande du beau-frère de Kadhafi, qui n'était autre que quelqu'un qui avait été condamné à la prison à perpétuité par la justice française pour sa responsabilité dans un attentat.
Voilà, c'est l'affaire Amesis dont tu avais été un des journalistes qui l'a sorti et qui avait montré justement l'implication du pouvoir sarkozyste, des services de renseignement français et du pouvoir kadhafiste via un intermédiaire qui s'appelle Ziad Takieddine et via des sociétés qui vendent à l'export des techniques pour faire très court de flicage de tout ce qui passe sur Internet.
Et en fait, bah, ils ont développé une sorte de NSA libyenne, un système de surveillance de l'Internet à l'échelle du pays qui permettait de surveiller les 600 000 internautes libyens et de traquer tous les étudiants qui parlaient de faire des manifestations, la révolution, et où il y a eu une plainte depuis qui a été déposée pour complicité de torture. Il y a plusieurs dissidents libyens qui avaient été arrêtés et torturés, et c'était grâce à ce système Eagle conçu par Amesis pour Kadhafi. Donc ça a été révélé en 2011, on est en 2015, l'affaire suit son cours. L'instruction n'est toujours pas finie.
Des spécialistes de la surveillance sur Internet peut-être bientôt devant les tribunaux. Face aux multiplications des affaires, les députés demandent aujourd'hui une commission d'enquête sur ces ventes.
Tout ça, ça a commencé avec ton petit Wikileaks à toi.
C'est un peu ça en fait. Quand j'ai réussi à me procurer le mode d'emploi du logiciel, j'ai regardé les propriétés du document, ce qu'on appelle les métadonnées, savoir qui est-ce qui a créé le document. Donc là, il y avait le nom d'un ingénieur, donc j'ai découvert ensuite son CV sur LinkedIn.
C'est le réseau professionnel.
Ensuite, j'ai retrouvé son profil sur Twitter. Via son profil sur Twitter, je suis tombé sur son pseudo. Via son pseudo, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme autre page sur son pseudo. Et là, je suis tombé sur son profil sur Vimeo, qui est donc une sorte de YouTube, plateforme de vidéo. Voilà. Ce mec-là,
Ce Nicolas,
avait tellement de sentiments d'impunité, il trouvait ça tellement normal de travailler pour un dictateur, qu'il avait mis sur Vimeo une vidéo où il filmait le bâtiment des services secrets libyens. La sécurité militaire, là où des gens ont été torturés, qui était le QG, en fait, là où ils écoutaient les communications. Donc,
c'est-à-dire que là où on torturait, lui, il partait du boulot, il fait sa vidéo, il la poste.
Et il la poste sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est plutôt rigolo. Donc ça a été pris en février 2010, donc avant le printemps arabe.
Et on voit la circulation dans le Tripoli de l'époque Kadhafi encore. En fait, c'est la vidéo du retour du boulot du consultant français qui a vendu le logiciel de surveillance au guide suprême de la révolution.
Et la personne qui ouvre la porte, on le reconnaît. Et c'était un des autres ingénieurs français d'Amesis.
Voilà, t'as arrêté l'image.
Là où il dormait, quoi. Donc ouais, c'est cool de travailler pour un dictateur.
Et surtout de se sentir à ce point inaccessible qu'on balance toutes les infos, comme exactement un teenage qui fait ses vidéos YouTube et qui...
Je vais te donner un autre exemple, c'est un des trucs, ça m'a troué, c'est le jour où ça sort dans le Wall Street Journal. Tu as un des responsables d'Eagle à Amesis qui était sur un salon de discussion avec ses potes, mais depuis ado. Et quand tu vas sur ce groupe-là, cette bande de potes, j'ai retrouvé des photos d'eux quand ils avaient 14-15 ans, quand ils jouaient à World of Warcraft. Ou...
C'est des jeux en ligne.
J'ai les photos, j'ai ces scores en ligne, parce que tout était sur le web. Et donc, le jour où ça sort dans le Wall Street Journal, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais c'est ta boîte, là, qui est dans le Wall Street Journal. Ah, mais je savais pas que tu bossais pour Kadhafi. » Et donc, il répond « Ouais, ouais, mais bon, Kadhafi, effectivement, c'était un client qui était un des plus durs, mais bon, il y en a d'autres. Puis de toute façon, on s'en fout, parce que maintenant, ça fait tellement de scandales qu'on a trouvé un nouveau client. » C'est-à-dire qu'il explique sur le web... Et j'ai pu faire la capture d'écran, il reconnaît qu'il bosse chez Kadhafi et que la mauvaise publicité que lui fait le Wall Street Journal, en fait, c'est la très bonne publicité parce qu'ils ont trouvé un nouveau prospect.
The French surveillance technology company Bull is selling its subsidiary called Amesis that allowed Mr. Gaddafi to keep tabs on his own people.
Mais la petite leçon à tirer provisoirement déjà tout ça, c'est que les mêmes techniques que eux, les surveillants, utilisent de manière parfaitement cachée et secrète, on peut retourner avec des outils à peu près ouverts et trouver les failles.
Et donc, un autre truc qui était rigolo également, c'est que dans ce mode d'emploi, donc, tout était anonymisé, et à un moment, je suis tombé sur ce que j'appelle la liste verte. Ça. Moi, je comprenais pas trop ce que c'était.
C'est un graphique.
C'est un graphique où c'est une liste de cibles, enfin une liste, et je ne sais pas ce que c'était exactement, mais en fait, en faisant clic droit, copier l'image, j'ouvre un éditeur d'image et je colle l'image. En fait, là, bah, j'avais la liste de toutes les adresses mail.
C'est-à-dire que la liste des mails, des noms de toutes les personnes qui sont surveillées.
Mais ce qui était très intéressant, c'était de voir que la principale personne qui était surveillée, c'était un dissident de longue date qui vivait depuis 30 ans en Grande-Bretagne. En dessous, il y avait une dizaine de blogueurs et de dissidents libyens très connus. Et il y avait également deux fonctionnaires américains. Et il y avait un avocat britannique qui est un avocat qui travaille avec Wikileaks. Donc quand je suis allé, j'ai travaillé avec Julian Assange et Wikileaks sur ces marchands d'armes de surveillance, quand je lui ai montré cette liste verte désanonymisée en lui disant « Mais t'as vu, il y a un avocat, il bosse avec toi ». C'était la preuve que non seulement la boîte française contribuait à surveiller des dissidents en Libye, mais également des avocats en Grande-Bretagne, pour le compte de Kadhafi. Et donc, ce qui est complètement délirant, c'est que Sarkozy, qui avait permis de mettre les Libyens sous surveillance, qui avait permis aux services de renseignement libyens d'espionner les Libyens, 3 ans après, il était accueilli à Benghazi comme le libérateur de la Libye, parce qu'effectivement, il a contribué à la chute de Kadhafi. Mais avant de contribuer à la chute de Kadhafi, il a contribué à l'espionnage des Libyens. Et ça, les Libyens ne savaient pas.
On a plus de contrôle que l'administrateur du système lui-même. Parce que ce dernier doit justifier tout ce qu'il fait, mais pas nous, puisqu'on n'existe pas. On est des fantômes.
Avant Snowden, des gens comme moi qui enquêtaient comme ça sur les systèmes de surveillance, souvent nous brocardaient comme étant, ouais, t'es un peu parano, quoi. Enfin, bon, la NSA, d'accord, mais bon, j'ai rien à cacher. Sauf que Snowden arrive. Une des révélations de Snowden, c'est de montrer que ce que fait la NSA, c'est qu'elle surveille ceux qui communiquent avec leurs cibles. Donc la question n'est pas de savoir si on a quelque chose à se reprocher ou quelque chose à cacher. La question est de savoir, est-ce qu'on communique avec quelqu'un qui est une cible de la NSA? Donc ça veut dire que le frère du collaborateur de François Hollande, la belle-sœur de quelqu'un qui travaille dans les services de renseignement, ou le fils du voisin d'un marchand d'armes, peut potentiellement être surveillé par la NSA. Et donc là, c'est la gueule de bois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui découvrent ce que fait la NSA et le GCHQ, qui est son équivalent britannique. Et là, il y a un renversement complet de balance, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui entendent parler de surveillance de masse et qui confondent la surveillance de masse avec l'espionnage généralisé. L'objectif d'un service de renseignement, c'est pas d'espionner l'intégralité d'une population, sauf si tu t'appelles Kadhafi et que tu n'as que 600 000 internautes. Mais en France, c'est juste impossible de surveiller l'intégralité des télécommunications. Mais par contre, c'est clair, il y a des systèmes de collecte de masse, et si on communique avec quelqu'un qui est une cible, on va être surveillé. Ils disent que c'est pas attentatoire à la vie privée, sauf que bien sûr que si, c'est attentatoire à la vie privée. Les métadonnées révèlent beaucoup plus d'informations que souvent les contenus.
Et c'est là où il y a de plus en plus de citoyens, que tu évoquais là, la parano galopante, mais qui essayent justement de trouver des contre-feux, qui essayent de passer sous tort.
Ouais. Ben, de toute façon, moi ce que j'ai essayé d'expliquer pendant le projet de loi renseignement, c'est que on a besoin de savoir utiliser Tor, on a besoin de savoir utiliser OTR, qui est un système de messagerie instantanée sécurisé, on a besoin de savoir utiliser un coffre-fort électronique pour protéger ces documents, comme ça même si l'ordinateur est volé ou si on perd l'ordinateur, ben, les données à l'intérieur elles sont chiffrées, elles pourront pas être exploitées par quelqu'un d'autre. Donc quand il y a quelque chose auquel on tient beaucoup, il faut apprendre à le protéger.
On a compris que le traquage, le traçage de tous les comportements en ligne intéressait bien sûr les services de renseignement, mais ça intéresse aussi un autre acteur qui pèse presque plus lourd, c'est les grandes entreprises, et ça c'est pour des buts purement commerciaux.
C'est clair qu'il faut bien comprendre que Internet n'a pas été conçu pour être sécurisé et pour protéger la vie privée des utilisateurs. Internet a été conçu pour que l'information circule. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont t'espionner toi, mais qu'ils vont te surveiller. Et donc c'est ce que font les services de renseignement, ils vont surveiller des gros volumes de données pour trouver des comportements suspects. Bah, ce que font les Google, les Facebook et compagnie, ils vont surveiller des gros volumes de données pour trouver, c'est pas des comportements suspects, mais pour savoir si t'es un homme, une femme, et si c'est plus intéressant pour eux, commercialement parlant, de t'afficher une publicité pour un livre ou de t'afficher une publicité ciblée pour un bouquet de fleurs. Donc c'est un monde de transparence et un monde de surveillance. Nous devenons transparents et en face, il y a des entreprises et des services qui font de la surveillance pour leur business respectif. Donc c'est un changement complet de paradigme. C'est un combat entre la transparence et la protection du secret et de la vie privée. C'est pour ça que moi je parle du quart d'heure d'anonymat. Par défaut, ce que je fais va être tracé. Quand j'ai besoin de me protéger, je m'en donne les moyens. Mais on ne peut plus revenir en arrière à un monde où, par défaut, on n'est pas tracé. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop d'intérêts marchands et politiques qui sont en jeu.
Donc, aux auditeurs d'aller ou à une crypto-partie ou une chiffre-fête, ou bien d'aller sur...
J'avais fait une page sur mon blog qui s'appelle « Comment protéger ses sources ». Et maintenant, c'est clair que des manuels de protection et de sécurité informatique sur Internet, il y en a pléthore. Donc c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas d'apprendre à protéger ses communications. Il faut juste s'en donner les moyens.
À vous de jouer, donc.
Ouais, c'est dans votre camp, la balle est dans votre camp.
Nos carnets de santé,
nos poèmes, nos dessins,
nos demandes de congés,
nos premiers chats coquins,
nos recettes de cuisine,
nos relevés bancaires,
nos rencarts, notre planning
et notre compte à découvert.
Rien, rien, rien à se reprocher.
Rien, rien,
rien, rien, rien à cacher.
Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors, si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
Nos cartes d'adhérents,
nos radios, nos scanners,
les photos de nos parents,
nos bulletins de salaire,
notre poids en chocolat,
nos drogues favorites,
les vidéos du chat
et nos idées politiques.
Rien, rien, rien à se reprocher.
Rien,
rien, rien, rien à cacher.
Si toi tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook, bien tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles.
À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
Merci à Aokin et Jean-Marc Matnac. Vous retrouverez les liens conseillés sur le site de Comme un bruit qui court, ainsi que la référence de la BD enquête Grandes oreilles et bras cassés aux éditions Futuropolis. Mais après les défenseurs de la patrie, c'est l'heure avec Antoine Chao d'aller retrouver les défenseuses de la matrie.
Rien à cacher.
Qui a mon numéro ? Gaëtan, toi t'as mon numéro, toi aussi.
Eh bah, on va y aller, c'est parti. Alors, on fait deux équipes. Nous, on contourne tout, on va complètement de l'autre côté du Palais Royal. Ça vous va? Et vous, vous restez de ce côté-là, donc vous faites toutes les rues en transversale. On se tient au courant. Et voilà, l'action est lancée.
L'action est lancée. Alors, vous êtes 7-8, hein, armés de piques, les têtes vont tomber, là.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, on est plutôt sympa. Non, par contre, les noms de rues d'hommes, tout à fait, vont un peu tomber, vont être remplacés, en tout cas, pour un court moment, par des noms de femmes. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de rues qui portaient des noms de femmes en France et dans Paris. Donc en France, il n'y en a que 2%. Dans Paris, c'est un petit peu plus quand même. C'est super, c'est 2,6%. Et donc, on a eu l'idée de faire cette action pour revisibiliser les femmes qui sont invisibilisées de notre histoire. Puisqu'en fait, il y a tout un paquet de femmes là, dont on va coller les noms, qui devraient être connues à notre avis.
Vous allez réhabiliter qui ce soir?
Alors par exemple, il y en a une qu'on aime beaucoup, nous, c'est Marie Marvin. Alors Marie Marvin, c'est un peu notre héroïne, c'était une aventurière, une sportive. Alors déjà, elle était polyglotte, ensuite elle était alpiniste, mais aussi aviatrice. Elle s'est battue dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, déguisée en homme. Elle est la femme la plus décorée de France, championne mondiale de bobsleigh, championne d'athlétisme, de boxe, d'équitation, d'escrime, de golf, de gymnastique, d'haltérophilie, de natation, de patinage, de polo, de ski, de sport de combat, de tennis, de tir. À 86 ans, elle a encore fait Nancy-Paris en vélo. Vous connaissez Marie Marvin? Est-ce qu'il y a une autre Camille Claudel? Parce que je pense qu'on peut se le tenter en haut.
Alors là, c'est la rue de Beaujolais. C'est quand même dommage, mais bon, elle est renommée rue Camille Claudel, voilà. Non. La rue des Petits Champs, rebaptisée...
Alexandra Davinel, la première femme qui est rentrée dans Katmandou.
Ah, c'est bien, pour qu'on abandonne un peu dans Paris, c'est pas mal, les choses.
Ouais, c'est pour les journées du matrimoine.
Ah, du matrimoine, ah, ouais.
Non, du matrimoine.
Matrimoine, ah, patrimoine. Ah, c'est bien, hein, c'est excellent. Elles sont bien faites en plus. Hein.
Qui revendique l'action? Et bah, c'est l'association Oser le Féminisme, qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, un peu dans tous les secteurs. Et donc ces derniers temps, on s'attaque beaucoup à la représentation des femmes dans l'espace public, notamment à travers les noms de rues.
Donc la rue Vivienne est rebaptisée rue Florence Artaud, c'est pas mal, hein?
Ouais, c'est pas mal, ouais. Faut changer un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est bien.
Henri, le voiturier du Palais Royal, ça l'a bien fait rire hier soir cette histoire, cette inauguration nocturne des journées du matrimoine par OLF, Oser le Féminisme. Mais c'est très sérieux cette histoire. Les journées du matrimoine sont organisées par le collectif HF, collectif pour l'égalité hommes-femmes pour les arts et la culture, qui propose notamment au Petit Palais une visite du matrimoine, une visite, un parcours matrimoine ad hoc. Le palais, c'est le musée des arts de la ville de Paris.
Comme un bruit qui court.
Alors bonjour, je suis Aline César, je suis actuellement présidente de l'association HF Île-de-France. L'idée, c'était vraiment de profiter de ce temps fort des journées du patrimoine pour imaginer un contre-événement, un focus sur le matrimoine, à la fois pour le lancement de notre site qui s'appelle matrimoine.fr, qui est le premier site qui va recenser toutes les artistes, créatrices du passé dans tous les domaines artistiques, et puis en même temps pour faire un véritable focus avec des parcours, des visites et des performances qui mettront en scène ce fameux matrimoine.
Alors, le matrimoine, c'est pas dans le dictionnaire, hein.
Sur Internet, je me suis amusée à taper. Donc, dans Wikipédia, on trouve héritage des mères. On trouve sur reverso.net également cette mention de l'héritage des mères.
Wikipédia. Matrimoine. Nom masculin, singulier. Féminisation de patrimoine. Héritage culturel, exclusivement fondé sur l'histoire des femmes propres à un territoire, traduit comme révélateur de construction genrée. Le matrimoine est un roman d'Hervé Bazin, paru en 1966.
Dès le Moyen-Âge, ça c'est notamment la chercheuse historienne du théâtre Aurore Evin qui nous l'apprend, dès le Moyen-Âge on trouve une première occurrence de ce terme en 1459 pour désigner dans la transmission des biens du père, on désigne le patrimoine, et pour les biens de la mère, le matrimoine. Donc c'est un terme qui existe, il y a un certain nombre de chercheuses, d'artistes qui se sont emparés de ce terme depuis un peu plus de 20 ans pour travailler à mettre en valeur toute une part effacée de notre héritage, puisqu'au fond ce qui nous importe nous à HF, c'est bien de mettre en lumière, non pas seulement le matrimoine contre le patrimoine, c'est pas du tout l'idée, mais bien au contraire de constituer un héritage commun, culturel, qui sera la synthèse du matrimoine et du patrimoine.
Aline César, pourquoi aujourd'hui donc le Petit Palais? Bon, j'imagine que c'est en attendant le Grand Palais l'année prochaine, mais...
Bah, le Petit Palais parce que, on a une de nos chercheuses, Bénédicte Gatter, qui a proposé un parcours pour valoriser ses créatrices, cette collection, et puis parce que le Petit Palais nous a vraiment ouvert ses portes pour montrer que les femmes sont bien là, de sortir de cette croyance, de cette idée reçue qu'au fond, s'il y a si peu de femmes dans les espaces les plus hauts de la consécration artistique, une seule femme Palme d'Or à Cannes, depuis la création du festival, Jeanne Campion, et encore co-ex-aequo, une seule femme programmée en mise en scène dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Ariane Mnouchkine. Donc d'un seul coup, on se dit, mais les femmes ont quand même besoin d'appuyer leur légitimité sur des modèles. Et puis on a besoin aussi de sortir de cette idée reçue que les femmes ne sont pas là, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas présentes. On a tendance un peu à prendre, je dirais, le résultat pour la cause, c'est-à-dire l'absence de femmes comme étant fondée sur, finalement, moins de talent. Donc c'est cette idée reçue qu'on veut désamorcer. Tout ça partant au départ, hein, pourquoi on a créé les HF, c'était à la suite notamment des rapports de Rennes Pratt en 2006-2009. Rennes Pratt avait été missionnée par le ministère de la Culture pour faire une enquête sur la place des femmes dans le spectacle vivant. Et cette enquête, elle a montré quelque chose qu'on savait tous plus ou moins, mais qui d'un seul coup est devenu une réalité tangible, concrète, objective, c'est qu'elles étaient absolument sous-représentées. On pouvait lire à l'époque que 78% des mises en scène étaient signées par des hommes, 92% des musiques entendues également. Enfin, pour lutter contre ça, nous, on a travaillé beaucoup. Alors, HF, ça s'est créé en Rhône-Alpes et puis ça s'est diffusé. On a une quinzaine de collectifs aujourd'hui en France rassemblés dans une fédération. On a travaillé à sensibiliser, à faire connaître, à faire savoir, à orienter les politiques publiques. On a été reçus travailler avec le ministère de la Culture, avec la délégation aux droits des femmes, à l'Assemblée nationale. On a notamment été auditionnés pour l'examen de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes d'août 2014. Et malheureusement, on s'aperçoit que malgré toutes ces initiatives, malgré toute cette bonne volonté, eh bien, sans une politique vraiment coercitive, eh bien, les chiffres ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on est presque 10 ans après les rapports de Rennes Pratt, et en fait, la proportion des femmes dans tous les espaces de la création ne bouge pas. Alors, nos camarades d'Oser le Féminisme nous disent qu'on ferait partie de ce qu'on appelle la troisième vague du féminisme, avec notamment la barbe. Voilà, on est né il y a une dizaine d'années ensemble. La nouveauté d'HF, c'est sa particularité, c'est qu'on est le seul mouvement féministe qui travaille spécifiquement sur le secteur de l'art et de la culture. Alors évidemment, on partage avec le Haut Conseil de l'égalité, avec un certain nombre de courants, les mêmes revendications de parité professionnelle, parce qu'au fond, c'est ça. C'est que quand on regarde dans tous les autres domaines professionnels, l'égalité est appliquée. Dans l'armée, vous savez qu'il y a plus de postes, de femmes aux postes de haute responsabilité que dans la culture. C'est-à-dire que la culture continue à faire exception et que le monde des arts continue à se croire finalement au-dessus des règles parce que, soi-disant, il serait naturellement porteur du gène de l'égalitarisme et de l'universalisme et que, au fond, c'est quand même pas ça qui est le plus important de se préoccuper de l'égalité femmes-hommes. Donc on est un petit peu les premières à se préoccuper de ça spécifiquement dans ce secteur.
Aline César, le fait qu'il y ait eu deux ministres de la culture femmes consécutives, donc Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin, ça vous facilite la tâche ?
Déjà, le fait qu'il y ait un gouvernement paritaire, c'était quand même très important. Je crois qu'Aurélie Filippetti, elle a été intimement convaincue par la question. Fleur Pellerin affirme s'inscrire dans la continuité. Est-ce que être une femme, ça facilite les choses ? Je dirais que les femmes ne sont pas forcément les premières à être convaincues naturellement par la cause. Certains hommes le sont parfois plus. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est parfois plus difficile pour une femme de se faire entendre parce qu'on a toujours le soupçon de prêcher pour sa paroisse. Et donc, on a toujours à lutter au fond contre l'idée d'un certain sectarisme, ou en tout cas de défendre, de prêcher pour soi.
Tu la sens sans que je trime, tu ressens sentant que j'affirme, tu entends alors que je saigne dedans.
Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris.
Bonjour, moi c'est Bénédicte. Je suis étudiante en histoire de l'art, enfin maintenant diplômée d'un master recherche. Et j'ai travaillé sur les artistes femmes durant le 19e siècle. Et en particulier sur une peintre de genre, Henriette Braun. Maintenant elle commence presque à être connue, je dis toujours Henriette Braun. Donc voilà, qui était une Française très peu connue. Mais il y a eu pléthore en fait d'artistes femmes qu'on est en train de redécouvrir, qui ont participé à cette vie artistique de la seconde moitié du 19e en fait. Le Petit Palais, c'est le musée donc de la ville de Paris, qui a des collections très, on va dire, hétéroclites, presque à l'image du Louvre, puisqu'elles vont de l'Antiquité jusqu'à l'époque 1900. Et justement, nous, on a décidé de faire un peu un parcours qui se focalise sur le... justement sur la modernité, plus sur l'époque 1900, la belle époque, et justement l'investissement des avant-gardes par les femmes. Parce que souvent, on les voit, par exemple, du côté des salons, des choses assez académiques, sages, etc. Alors que certaines ont vraiment été pionnières en termes d'iconographie et de recherche formelle. Donc voilà, donc on va commencer par là, le centre, qui est un peu la rotonde des arts décoratifs dans le Petit Palais. Et on voit qu'il y a donc plusieurs objets d'art décoratif avec des médailles. Et au milieu, on a un objet un peu étrange qui a des formes un peu fantastiques, etc. Et c'est en fait une dague sculptée par quelqu'un qui est pourtant très connu, mais qu'on n'imagine pas sculptrice. C'est Sarah Bernhardt. Très connue donc pour être une grande comédienne à son époque, à l'égal de Leslie Carter. Enfin, c'était vraiment des stars avant l'heure. Et Sarah Bernhardt est moins connue pour cette activité-là. En réalité, elle a commencé à partir de l'âge de 25 ans à sculpter en parallèle de son métier de comédienne. Elle a commencé donc dans les ateliers de Mathieu Meunier et Emilio Franceschi. Et elle va sculpter jusqu'à la fin de sa vie, quasiment, jusque dans les années 1890, en sachant donc qu'elle va vivre jusqu'en 1923 et donc disparaître à l'âge de 79 ans, ce qui est très honorable. D'ailleurs, on se rappelle, les photos d'époque sont là pour le montrer, qu'elle a eu des funérailles nationales absolument grandioses. On raconte vraiment qu'il y avait des milliers de personnes dans les rues de Paris qui étaient venues lui rendre un dernier hommage. Et cette dague a été présentée à l'exposition universelle de 1900, qui a donc accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Donc on imagine quand même que c'était une publicité énorme pour son travail. Elle avait une vitrine entière, en fait, consacrée aux objets qu'elle a sculptés elle-même. Donc là, ici, on a un portrait qui est intitulé La Parisienne. Alors, Marie Bashkirtseff.
Alors, elle est ukrainienne. Née en 1858 et morte à Paris en 1884. Et là, c'est
jeune,
un portrait.
À 25 ans.
25 ans.
Elle est morte à 25 ans. Je pense que sa mort prématurée aussi a fait que... Mais Marie Bashkirtseff est quand même très connue par les historiens de l'art à cause de son journal, qui est un matériau très précieux, justement, qui nous renseigne sur l'enseignement dont pouvaient bénéficier les jeunes femmes au 19e, en sachant que donc les portes de la très officielle École des Beaux-Arts leur étaient fermées jusqu'en 1896. On a le droit de concourir au prix de Rome, qui est le plus grand prix, qui permet une exposition directe au salon, qui permet d'être connu assez rapidement, ou en tout cas par ses pairs, déjà. C'était en 1901. 1903, c'est la première femme qui l'obtient, et c'est une sculptrice, c'est Euvelmans. Voilà, c'est pour ça aussi on se focalise un peu sur les sculptrices qui sont encore des oubliées. Je pense que les oublis aussi sont un petit peu par catégorie, par genre, sexe, milieu d'origine, par région d'origine des peintres. Enfin, je pense qu'il y a aussi plein de choses, quoi. Notre histoire de l'art, celle qu'on apprend, celle qui est aujourd'hui montrée, elle est très blanche, elle est très occidentale, elle est pas toujours super inclusive, elle prend pas toujours tout en compte. Donc voilà, c'est un petit rappel, quoi. Il n'y a pas que les femmes qui sont les grandes victimes de ces oublis. Là, c'est le focus de ces journées du matrimoine et c'est déjà pas mal, quoi.
Merci à Aline César, présidente d'HF Île-de-France, et Bénédicte Gatter pour ce petit aperçu du parcours matrimoine que vous pourrez retrouver sur le site matrimoine.fr et faire vous-même. Et ce soir, jusqu'à minuit, vous pourrez rencontrer les membres d'Oser le féminisme jusqu'à minuit sur la place du Palais Royal à Paris. Et demain aussi, dimanche, à 14h47, boulevard de l'Hôpital, dans le 3e arrondissement, pour un parcours urbain à travers le prisme du matrimoine et du féminisme.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast. Il me reste quelques instants pour vous recommander le web documentaire Do Not Track, en coproduction avec Arte, qui vous montre, preuve à l'appui, comment vous êtes pisté sur Internet. Juste après les informations, vous retrouvez La Preuve par Z de Jean-François Ziguel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.